Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Logiciel SPIP, logiciel libre destiné à la création de sites web. C'est le sujet principal de l'émission du jour. L'occasion de découvrir ou d'en savoir plus sur ce logiciel libre qui permet de créer des sites web et qui est également, dès l'origine, un projet politique marqué. Avec également au programme la chronique de Jean-Christophe Becquet qui va nous parler d'un guide pédagogique pour découvrir son territoire grâce au goût. Et également la chronique de Tiffaine Bonnet sur le droit à la décompilation des logiciels et non pas la décomposition de logiciels. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couché, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org, qui est fait avec le logiciel libre SPIP. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 23 novembre 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques à l'April. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Alors nous allons commencer par un petit quiz en lien avec le sujet principal qui est SPIP. On vous donnera la réponse très rapidement, je pense que dans la première question du sujet long d'ici une quinzaine de minutes. Donc la question est, en quelle année est né le projet, le logiciel SPIP? En tout cas sa première version. Vous pouvez aller sur le salon web de la radio, hein, causecommune.fm, bouton de chat salon libre à vous pour proposer vos réponses. Texte, image, vidéo ou base de données, sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Le sujet du jour, le livret du petit goûteur, un guide pédagogique de l'association Picassiette. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Picassiette est une association engagée dans l'éducation à l'environnement, et en particulier dans l'éducation à l'alimentation citoyenne et à l'agriculture durable. Elle partage sous licence libre Creative Commons by SA le livret du petit goûteur. Il s'agit d'un guide pédagogique pour découvrir son territoire grâce au goût. Le livret sert de support aux classes du goût, une approche qui vise à faire naître le plaisir gustatif, favoriser la curiosité et l'ouverture au monde. On trouve en entrée le vocabulaire des sens, une liste de mots pour décrire les sensations autour des aliments, croustillant, moelleux, soyeux, suave, onctueux. Le guide est prévu pour être complété par l'enfant lors d'une séance de dégustation axée sur les cinq sons. Et oui, on peut s'amuser à nommer le son de chaque aliment qui craque, croque, croustille ou crisse. La ronde des saveurs aborde le plaisir gustatif. Un schéma sur l'olfaction montre comment le parfum d'un aliment participe à la dégustation. La vue, quant à elle, nous renseigne sur la couleur, la forme, l'aspect d'un produit. Mais attention, elle peut aussi nous induire en erreur. La dernière partie du guide met en lumière le lien entre les aliments et le territoire. D'où proviennent les produits? Qu'est-ce qu'une appellation d'origine protégée? Que signifient les sigles officiels comme label rouge ou agriculture biologique? L'évocation du pélardon, des plantes et du miel des garrigues finira de nous mettre en appétit. Le choix d'une licence libre permet de favoriser la diffusion du livret et par là même la propagation des méthodes et des enjeux défendus par l'association. D'ailleurs, l'association Picassiette est lauréate de l'appel à projet du Programme national pour l'alimentation 2020-2021. Elle pourra ainsi accompagner l'essaimage de cette démarche d'éducation à l'alimentation sur les territoires au niveau national. La mise en page du livret du petit goûteur a été réalisée sous Scribus par Terre Nourricière, une structure associative qui conçoit des supports de communication pour étendre la portée d'actions et structures qui nous mènent vers un monde plus éthique, responsable et solidaire. Scribus est un logiciel libre de PAO, une publication assistée par ordinateur. Le choix d'un logiciel libre est parfaitement cohérent avec les valeurs défendues. Si vous voulez découvrir ce fabuleux logiciel, le site Floss Manual propose un manuel de prise en main de Scribus en français et sous licence libre. Je donne les liens dans les références de l'émission. L'association Pic Assiette a aussi réalisé un guide intitulé « Nos paysages agricoles aux quatre saisons » qui invite à découvrir le territoire du Grand Pic-Saint-Loup à travers l'alimentation, les paysages et l'agriculture. Ce guide est lui aussi disponible sous licence libre. Le groupe de travail sensibilisation de l'April conçoit des supports pour faire connaître les enjeux du logiciel libre. Comme le livre du Petit Goûteur, ces documents sont réalisés avec des outils libres et partagés sous licence libre pour encourager leur diffusion et leur réutilisation, mais aussi leur amélioration et leur adaptation. Par exemple, l'Expo Libre, qui présente les enjeux du logiciel libre en une dizaine de panneaux, a dû être traduite en anglais, en espagnol et en italien.
Bah écoute, merci Jean-Christophe pour cette chronique. Je précisais que le guide fait 16 pages. Hein,
et absolument.
Que le Pélardeau est un très bon petit fromage au lait cru de chèvre, si je me souviens bien. Et que le choix de la licence CC BY-SA, donc partageant les mêmes conditions, c'est une licence qui permet la réutilisation et la modification, y compris pour des raisons commerciales, à condition que les versions rediffusées et modifiées soient sous la même licence, ce qu'on appelle partagées dans les mêmes conditions. Écoute, Jean-Christophe, je pense que ta prochaine chronique sera plutôt en janvier, parce que le mois de décembre va être court côté Libre à vous avec les vacances de fin d'année. Donc je te souhaite de passer une belle fin de journée et on se retrouve en 2022.
Ça marche, belle fin de journée, belle fin d'année du coup à tous et rendez-vous en janvier 2022 pour la prochaine chronique Petite Libre. Bonne fin d'émission, à la prochaine.
Merci Jean-Christophe. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur SPIP, le logiciel libre de création de sites web. En attendant, nous allons écouter The Fugitive par Evan Finch. On se retrouve dans 2030, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter The Fugitive par Evan Finch, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouverez une présentation de l'artiste sur le site auboutdufil.com. Je vous en lis un passage. Evan Finch est un youtubeur, musicien et producteur indépendant américain aujourd'hui installé à Taipei. Sur sa chaîne YouTube, il publie des vidéos dans lesquelles il filme sa propre réaction à l'écoute des nouvelles sorties musicales dans les genres pop, punk, post-hard rock ou encore techno-rap. Bien que sa chaîne YouTube représente la majeure partie de son activité sur le web, il publie une à deux vidéos par semaine. Evan Finch n'est pas seulement une critique musicale, il est également musicien. Il chante, pratique la guitare et produit sa musique originale sur ordinateur et donc produit et propose des musiques sous licence libre. Vous trouverez évidemment toutes les références sur le site libreavoue.org.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur SPIP, logiciel libre destiné à la création de sites web, avec Arnaud Martin de 23 Forward, Anne-Lise Marteneau alias Touti et Jean Galland alias Chancalan. Chancalan qui a notamment contribué activement à la mise en place de deux sites qui sont basés sur SPIP, libreavoue.org, le site consacré à notre émission de radio, et librealire.org, notre site consacré aux transcriptions faites par le groupe Transcription de l'April. Alors tout de suite, avant d'oublier, parce que des fois ça nous arrive d'oublier le site web de SPIP, donc du projet dont on va parler, spip.net. Et on aura tout à l'heure, assez rapidement, je pense, la réponse à la question quiz que je vous proposais en introduction. Alors d'abord, on va vérifier que tout le monde est sur le téléphone, parce qu'on a eu un petit problème technique tout à l'heure. Donc Arnaud, est-ce que tu es avec nous?
Oui, salut.
Salut. Touti, est-ce que tu es avec nous?
Oui, tout à fait.
Jean, est-ce que tu es avec nous?
Oui, bonjour tout le monde.
Ok, super. Bon, écoutez, on va commencer par une petite question traditionnelle de présentation rapide, succincte. Donc, on va commencer dans l'ordre inverse que j'ai fait à l'instant. Là, on va commencer par Jean. Donc, Jean Galland.
Alors moi, j'utilise SPIP depuis la version 1.8.3. Je ne vais pas donner la date parce que comme ça, je ne donne pas d'indication à la question piège. Je vais donner un coup de main pour réaliser les sites Libre à vous et Libre à lire. Et on verra lesquels suivront après. Voilà.
D'accord. Touti ?
Alors moi, ça fait pas mal de temps que je suis sur SPIP. Et puis, au départ, j'ai surtout fait des contributions en me présentant comme un homme. En tout cas, non genré. Et puis, aujourd'hui, j'y vis de SPIP professionnellement. Voilà, je suis en auteur création multimédia. Voilà.
D'accord. Alors, on reparlera tout à l'heure de ce sujet du genre. On va finir par la présentation personnelle d'Arnaud Martin.
Oui, salut. Moi, j'ai fait... Alors, Touti n'a pas précisé, mais elle faisait des choses avant SPIP, donc on s'est plus ou moins croisés, ou on croisait un peu les mêmes réseaux dans les années 96, 97 et jusqu'en 2000, où on faisait du web, ce qu'on appelait le web indépendant. Donc, moi, je participais à un groupe qui s'appelait Mini Réseau et qui avait besoin d'un site qui s'appelait Usine. Donc, du coup, j'ai participé à la création de la toute première version de SPIP. Alors, j'ai pas compris votre histoire de date, donc je donne pas de date pour le moment, mais du coup, on a codé la toute première version de SPIP. Et puis, voilà. Donc, depuis, on a continué à faire de l'activisme. Moi, ensuite, j'ai continué à faire encore autre chose. Donc, je continue sur SPIP, mais avec SPIP, j'ai fait un outil qui s'appelle Cibis, qui est un réseau social depuis 2008. Un réseau social très politique, et puis maintenant, comme tout petit, je vis de SPIP en faisant des sites web professionnels.
Ok, merci Arnaud. Sur la date, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'en fait, je me suis basé sur une actu de SPIP publiée cet été. Justement, vu que tu viens de parler, Arnaud, du mini-réseau, du web indépendant des années 96-98, le premier sujet qu'on souhaitait aborder, parce que SPIP, au-delà d'être un logiciel libre dont on parlera tout à l'heure des fonctionnalités, mais c'est pas ce qui va nous intéresser le plus, en fait, dans un premier temps, c'est plutôt l'histoire de ce projet. Pourquoi il a été créé? Quand? Comment est le lien qu'il y a effectivement avec ce dont tu as évoqué tout à l'heure, donc le mini-réseau et le web indépendant? Donc Arnaud, toi qui est l'un des personnes qui est à l'origine de SPIP, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire en quelques mots sur l'origine de SPIP?
Oui, donc, alors, est-ce que je peux donner des dates ou pas?
Parce que tu peux donner des dates. Oui, maintenant, tu peux donner des dates.
D'accord. Oui, donc... Vers 96-97, on se retrouve sur le web chacun dans notre coin. Donc moi, je fais un webzine qui s'appelle Le Scarabée. D'autres copains font des choses intéressantes, souvent avec des noms d'animaux. Et on se retrouve un peu tous. Alors dans la bande, il y en a qui sont devenus un peu connus. Il y a Mona Cholet, par exemple, qui faisait son site web Périphérie. Il y a David Dufresne qui était un de nos anciens parce qu'il était là depuis un an de plus ou deux ans de plus que nous. On fréquente Valentin Lacambre et Laurent Chemla qui eux sont encore des grands anciens aussi pour nous. Et nous, on se met à faire du web éditorial, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt des blogs, mais qu'à l'époque on appelait des webzines. Et on se réunit pour fabriquer un site collectif qui s'appelle Usine, donc qui existe toujours en tant qu'archive, usine.net, avec un Z, pardon, U-Z-I-N-E.net. Et on fait de l'activisme sur la liberté d'expression. Donc on se retrouve aussi à croiser des réseaux d'activistes sur la liberté d'expression, sur les télés, radios libres, sur la surveillance, donc comme tout dit. Donc on fréquente un peu tous les mêmes réseaux et on a besoin aux alentours de 2000 de relancer notre site usine parce qu'on commence à être plusieurs, assez nombreux à vouloir publier régulièrement et que à la main c'est plus possible. Donc on a besoin d'un outil pour publier. Et donc on a besoin d'un outil qui permet de travailler à plusieurs sur un site web et de travailler en publiant des articles sans devoir refaire le HTML à chaque fois et refaire le graphisme à chaque fois, ce qui était ce qu'on faisait jusque-là. Et donc on code usine, on code SPIP, pardon, en 2000 et on le sort publiquement en 2001 pour que ça devienne un logiciel libre largement utilisable. SPIP sort avec Usine 2, qui deviendra ensuite Usine 3, la nouvelle version de notre propre site, où il y a beaucoup d'activistes de gauche, hein, c'est quand même des mouvements très libertaires. Donc on est en train de faire tous du web très très libertaire. Une des personnes qui rejoint le développement de SPIP et qui va l'utiliser, ça va être le monde diplomatique, donc Philippe Rivière. Et du fait que le monde diplomatique utilise cet outil, l'outil devient un peu connu quand même dans les milieux de gauche, évidemment. Et donc l'outil devient très utilisé pour les associations, pour les enseignants, puisque les enseignants lisent le monde diplomatique. Et donc vers 2004-2005, ça devient un très très gros outil, vraiment très très utilisé. Via, disons, un certain nombre d'enseignants notamment et de médias, l'outil devient aussi utilisé par les ministères, ce qui est bien un peu surprenant pour des libertaires, mais on se retrouve avec la moitié des ministères français qui utilisent SPIP. À peu près toutes les ambassades de France dans le monde utilisent SPIP pour faire leur site web. Et ça donne encore de la crédibilité à l'outil. Donc l'outil devient vers 2005 à 2008 un très très gros CMS utilisé vraiment très 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 largement. Voilà, et d'accord. Depuis l'outil est toujours utilisé, hein, comme tu le sais, mais effectivement, aujourd'hui on va plus parler de CMS à la mode, genre WordPress et Drupal, mais SPIP est toujours là, il est toujours développé, on vient de sortir, alors je sais pas s'il faut que je le dise, c'est peut-être la news de cet été.
Ah ben vas-y.
Donc il y a toujours de l'activité, on a sorti une version 4 qui est absolument magnifique. Qui est toujours très puissante, qui permet de faire beaucoup beaucoup de choses avec un site web. Donc, et il y a toujours une très belle équipe pour développer autour de SPIP.
D'accord. Alors, je vais sur le salon web de la radio. J'ai oublié de le préciser. N'hésitez pas à nous rejoindre. Hein, donc, site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. J'ai vu qu'il y avait une question. Je vais la relayer juste après. Mais je vais d'abord préciser effectivement que par rapport à la question quiz, je visais la version 1.0 qui est sortie en 2001 et vous avez fêté les 20 ans cet été avec la version 4. Touti, par rapport à l'explication que présente Arnaud, et donc si j'ai bien compris, vous êtes un peu connu à cette époque, mais dans d'autres domaines, dans d'autres réseaux, notamment sans doute autour des réseaux de lutte contre la vidéosurveillance, etc., si je me souviens bien. Est-ce que ce côté finalement très marqué à gauche que présente du projet, que présente Arnaud, est-ce que c'est quelque chose qui t'a poussé à t'investir, ou plus globalement dire, qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir dans ce projet à cette époque-là?
Moi, en fait, mon parcours, moi j'ai fait les Beaux-Arts à Paris, et puis en fait, on était un petit peu cantonnés, on pouvait pas faire de vidéos, on pouvait pas faire de choses comme ça. Moi, j'avais vraiment nécessité de diffuser mes créations et puis mes idées et puis mes idées politiques. Et moi, à cette époque-là, j'étais Je travaille, enfin, au début, plutôt fin des années, enfin, au dernier, au siècle dernier, quoi. Je travaillais pour des effets spéciaux en cinéma. Et quand j'ai vu la place que prenait l'informatique et ce que ça pouvait devenir, moi j'étais préoccupée des libertés aussi. Et du coup j'ai monté avec des amis, on avait monté Souriez, vous êtes filmé, et on avait besoin d'un site internet. Et puis quand on organisait des manifestations, etc., on se servait des réseaux internet. Enfin, moi ce qui m'intéressait, c'était vraiment, ça a été tout de suite une fenêtre sur le monde, sur la possibilité d'envisager une organisation sociale non pyramidale. Donc c'était évidemment youpi, on y va à fond. Donc quand Spip est apparu, c'était un peu c'était l'outil d'expression et de partage que j'attendais. Et puis c'est aussi à cette époque-là, en 2001, moi j'arrête de travailler complètement comme salarié, j'arrête le cinéma, j'arrête toutes ces histoires de post-production et d'ultra-libéralisme, et je cherche plutôt à donner un sens à ce que je fais. Et donc Spip, c'était impeccable pour ça, parce que moi ça m'intéressait de participer à un projet collectif qui aille dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment pas avoir une vie débile à fabriquer. De toute façon, moi je me heurtais moi-même au plafond de verre en tant que femme dans la post-production cinéma, et puis j'avais envie de tenter l'aventure du net, quoi. C'était vraiment sympa, voilà, c'est un peu ça qui m'a motivée. Et puis j'avais des idées à l'époque, Flickr n'existait pas, Facebook n'existait pas, donc l'idée de réseau collectif et de donner les moyens à chacun de se les approprier, c'était beau, voilà, c'était beau.
D'accord. Ok, Jean, de ton côté, je me souviens plus si tu as précisé la date de ton implication dans SPIP. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à contribuer à SPIP, à participer, et quelle est ta position par rapport à cette présentation initiale d'un logiciel qui est positionné, on va dire, politiquement?
Alors, comment dire, moi je suis resté longtemps et assez extérieur en fait aux gens qui fabriquent SPIP. Je suis resté utilisateur sur 2005 et j'ai trouvé que c'était pas mal. En fait j'en ai cherché, j'ai cherché un logiciel et je sais pas exactement pourquoi, enfin je sais un petit peu pourquoi j'ai pris ça, mais il y a... quelque chose qui m'intéresserait peut-être de savoir, enfin de préciser, en écoutant d'autres aussi en parler, c'est pourquoi je me suis, je suis resté en tout cas, j'utilise SPIP, je connaissais réseau.net sans savoir que c'était fait avec SPIP. Et en même temps, j'ai décidé d'utiliser SPIP pour faire des sites web. Voilà, il y a un lien entre les deux. Il y a peut-être de la politique dans le code qui fait qu'on s'y accroche, enfin que ça nous plaît. Mais voilà, c'est une question un petit peu que je pose.
D'accord, mais c'est pas ce qui t'a attiré au départ. Toi, tu cherchais effectivement un outil pour créer des sites web et quelque chose qui soit... accessible et qui te, sans avoir à faire, comme le disait au début Arnaud, du HTML, donc qui est le langage de base pour faire des sites web, sans faire du HTML à la main. C'est ça qui t'intéressait?
Je voulais donner soit à moi, soit à d'autres, la possibilité de maîtriser l'information publiée sur le web d'une manière, en maîtrisant la technique. Donc ça, oui, SPIP me l'a permis complètement. Donc voilà, c'est pas innocent, peut-être déjà juste ça.
D'accord. Alors, je vais relayer deux questions sur le salon web qui sont un petit peu liées. Donc la première, c'est Mario Dill qui demande: c'est quoi le web libertaire? Alors comme c'est Arnaud qu'on a parlé au tout début, est-ce que tu peux nous donner une courte définition du web libertaire, s'il te plaît, Arnaud?
Oui, alors liberté d'expression et politiquement plus proche des mouvements anarchistes, autogérés, donc très 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 marqué à gauche. Donc le côté libertaire, à pas confondre avec libertarien, donc le web à l'américaine, on va dire, est très marqué par des mouvements qui sont plus libertariens, qui sont assez typiquement américains. Le web français était quand même plus marqué, plus vers l'anarchie politique, donc plus marqué, la liberté d'expression, on l'a en commun, mais en même temps, pas n'importe comment, et avec une question politique beaucoup plus présente.
D'accord. Alors, deuxième question, qui, alors c'est peut-être toi qui vas répondre, ou peut-être d'autres, c'est une question d'Étienne. Comment s'est inscrit en fait le choix de publier SPIP comme logiciel libre par rapport à ces convictions libertaires que tu viens de décrire? Donc, comme c'est, tu fais partie de l'équipe d'origine, c'est peut-être toi qui vas répondre, Arnaud.
Oui, je veux bien. Alors ça, c'était, je me souviens très très bien que c'est Phil qui a posé le point du logiciel libre rapidement. Donc ça, c'était très clair pour lui.
Philippe Rivière,
oui, précisons. Philippe Rivière, pardon. Oui.
Phil, c'est F-I-L, mais sinon, c'est son nom, c'est Philippe Rivière, journaliste au Monde Diplo.
Oui, qui était.
Qui était, d'accord.
Il est indépendant, oui. Et qui donc a très très rapidement, dès les origines, travaillé sur SPIP et fait partie des trois, pendant quelques années, à trois, on a tenu un peu le logiciel, quoi, jusqu'à ce que l'équipe s'étoffe. Ça a été vraiment le cofondateur très important avec Antoine Pitrou. Et donc l'idée, c'était de pouvoir travailler à plusieurs. Donc cet aspect logiciel libre, je pense que c'est pas la peine de trop insister là-dessus, mais évidemment, pour un travail décentralisé à plusieurs sur un logiciel selon une logique plus ou moins autogérée, le logiciel libre est quand même indispensable. Sinon, vous faites une entreprise. Mais comme il ne s'agissait pas de faire une entreprise, mais de travailler et de contribuer chacun, le logiciel libre était logique. Il y avait un autre aspect qui est peut-être plus indirect et qui est très important dans SPIP et qui le différencie de beaucoup d'autres logiciels du même genre. C'est l'idée que SPIP ne sert pas qu'à publier un site web à l'origine. SPIP sert aussi à apprendre à faire du web. Et ça a été très très important dans l'histoire de SPIP dans les années 2000. La première décennie a été très marquée par ça. Et beaucoup de gens qui aujourd'hui disent font du web ou sont des professionnels ou des amateurs éclairés ont beaucoup appris en faisant SPIP. C'est-à-dire comment on structure un site web, comment on s'exprime en ligne, et ensuite comment on gère une petite communauté si on est plusieurs sur un site web, et ensuite comment on code son site web. Puisque SPIP, contrairement à un outil comme WordPress qui est très je télécharge le truc, je clique sur un bouton et j'ai une interface graphique, SPIP va vous demander de travailler ou va vous pousser à travailler. SPIP de base va vous faire un site qui vous permet de publier, qui vous permet plein de choses, mais assez rapidement vous allez avoir envie de mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Alors moins qu'en l'absence de CMS, mais par rapport à beaucoup d'autres logiciels, pour faire un joli site, vous allez avoir envie de bidouiller. Et c'est le principe de SPIP, vous allez devoir bidouiller dans votre propre code. Et donc si vous allez bidouiller dans le propre code, la logique est toujours celle du logiciel libre et du hack. Donc c'est un logiciel où on essaye de vous apprendre qu'il faut être un hacker. Vous allez apprendre du code des autres, vous allez modifier le code des autres et vous allez faire vous allez progresser de cette façon-là.
D'accord.
De la même façon, voilà.
Mais on va y revenir ça tout à l'heure justement sur le fonctionnement de SPIP, le projet. Je vais revenir donc, tu as parlé de l'aspect communauté, contribution, et je vais revenir sur l'introduction qu'a faite tout à l'heure Touti. Alors je ne sais pas si c'est dans le cadre du projet de SPIP dont tu as cité, le fait que tu étais arrivé dans les projets de façon non genrée. Et c'est vrai que historiquement, enfin en tout cas actuellement et même il y a 20 ans, la place des femmes dans l'informatique et dans l'informatique libre est vraiment réduite. Comment s'est passée cette arrivée? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans le cadre du projet SPIP que tu es arrivé de façon non genrée, c'est-à-dire pour pas faire penser que tu pouvais être une femme? Comment ça s'est passé et plus tard on parlera peut-être un petit peu rapidement de comment ça se passe aujourd'hui.
Je sais pas, pour moi ça s'est fait que ce qui m'intéressait c'était le côté technique. Et bon, moi j'étais au niveau du... Je connaissais l'informatique puisque je faisais les effets spéciaux, c'était numérique ce que je faisais. J'avais bossé pour Palette, j'étais infographiste, moi je m'étais toujours intéressé à l'aspect informatique. Mais du coup, je sais plus quand, au départ, je sais pas s'il y avait IRC déjà, peut-être qu'il y avait IRC.
Oui, ça existait déjà.
Donc le chat collectif. Et puis on était sur Gemman, voilà, par mail, des groupes de discussion. Et je sais pas, moi j'avais pris un pseudo. C'est vrai aussi, c'était une époque du web où on était tous anonymes. Et donc, moi, je considérais que mon travail, il était anonyme, et donc non genré, et donc j'avais un pseudo, je ne sais plus, je m'appelais, enfin, je sais très bien, mais voilà, c'était pas Tucci à l'époque, et personne ne me connaissait, donc je faisais des propositions, je publiais de la doc, et donc, les gens qui ne me connaissaient pas ne savaient pas que j'étais une femme, et j'écrivais au masculin, mais peut-être parce que j'avais pas envie de rentrer dans cette espèce de relation de subordonnée que je voyais parfois et que j'avais pas envie de dire qui j'étais ni en tant que femme ni en tant que personne. Je participais à un logiciel libre donc j'étais anonyme. Et c'est, je sais pas, à partir du moment où Emmanuel Saint-James m'a forcé un peu à faire un coming out, on va dire. Allô ?
Oui, oui, on t'entend.
Ouais. Ah non, c'est moi qui. Du coup. Et du coup.
Ah, on a perdu quelqu'un, je pense. Vas-y, continue. Ah, c'est peut-être Tutti qu'on a perdu. Ah. J'ai l'impression que c'est Tutti qu'on a perdu. Donc, on va lui laisser quelques secondes le temps de revenir pour qu'elle poursuive. Parce que j'ai entendu un bip. Donc, peut-être qu'elle a eu un appel. Donc. On va juste attendre quelques secondes, et puis sinon on passera à une autre thématique, mais on reviendra sur ce sujet-là. Alors, est-ce que tout y revient ou pas? Alors, le problème, si je vous préviens, au niveau technique, en fait, on passe par un pont téléphonique, parce qu'on a eu quelques soucis au niveau de la régie, donc on passe sur un pont téléphonique, donc on ne sait pas du tout si la personne va rappeler ou pas. Donc, je vais en profiter quand même pour vous rappeler qu'on a deux beaux sites web qui sont faits en SPIP, hein, libreavoue.org, donc consacré à l'émission de radio, que vous écoutez en ce moment. Libre à tu es revenu?
Excuse-moi, ouais.
Ouais, eh ben vas-y, alors je te laisse reprendre là où tu en étais. Tu parlais d'Emmanuel Angels qui t'avait encouragé à faire un coming out.
Ouais, Emmanuel Saint-James qui m'a encouragé un peu à faire un coming out en disant que j'étais une femme. Et donc en signant mon code, désormais, enfin, il fallait un petit peu que je signe mon code. Et donc après, j'ai pris des positions par obligation, on va dire, féministe aussi. Et puis j'ai expliqué aussi ma situation, que j'élevais ma fille seule, que j'avais besoin... Enfin, que le temps que j'avais, je ne pouvais pas m'exclure de ma position, de mes obligations familiales, et je ne pouvais pas me rendre aux réunions, etc. Donc c'était bien, et puis c'est vrai que peut-être j'ai réussi à faire bouger des trucs, parce qu'on était encore, enfin il y avait encore pas mal de femmes sur SPIP. Maintenant, je ne sais pas si on est très nombreuses, mais j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui viennent. Allez, les copines, venez, quoi. Et donc, voilà, c'est un peu plus de sororité et puis un peu plus de bienveillance. Et je pense que SPIP a pas mal travaillé là-dessus parce que j'y étais pas pour rien non plus. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'écriture inclusive, sur ne serait-ce que l'icône utilisateur au départ qui était un homme avec une cravate ou des choses comme ça. Voilà, c'est des petits détails, mais n'empêche que c'est aussi une invitation à ce que des femmes participent, et à tous les niveaux. Je pense que dans le logiciel libre, il y a que... moi, j'ai retrouvé des chiffres sur le logiciel libre, qu'il n'y a que 2% de femmes. Peut-être aujourd'hui, il y en a un peu plus. Mais c'est vrai que sur SPIP, on aimerait bien tous, qu'il y ait plus de femmes.
J'ai justement une question par rapport à ça, alors plutôt, enfin pour vous trois d'ailleurs, mais par rapport au fait que justement SPIP a été présenté comme un projet politique très très marqué à gauche, je suppose, mais c'est qu'une supposition, vous allez me dire, que justement cette action, je dirais, d'inclusivité, de bienveillance par rapport à des personnes comme les femmes, c'est quelque chose qui est naturel dans le projet. Moi, c'est ma supposition. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est la prise en compte de l'écriture inclusive, ou en tout cas les questionnements, les icônes, comme parle effectivement Tutti, est-ce que c'est quelque chose qui a été accueilli, ce genre de discussion, de façon naturelle, ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une sorte de réaction, parce que 99,99% des développeurs SPIP sont des hommes? Alors, qui veut répondre? Arnaud, Jean, ou même Tutti, hein, bien sûr.
Si je vois de mon côté...
Vas-y, Tutti, vas-y. Vas-y.
Moi, si je vois de mon côté, il y a quand même eu une nécessité de bousculer la communauté pour qu'elle en prenne conscience. Je crois qu'on en discute avec Arnaud, puis c'est pour ça, Arnaud, prends la parole peut-être par rapport à ce dont on parlait, par rapport au libéralisme, par rapport au fait, peut-être dans le logiciel libre, le fait que on est dans le go-go-go, vas-y, tu codes, et puis derrière, on reprend, enfin, celui ou celle qui a envie de reprendre, il reprend, il n'y a pas d'organisation hiérarchique, donc c'est vraiment un milieu à la fois qui est ouvert, et en même temps, il faut y faire sa place. Donc peut-être ce niveau de concurrence-là qui est difficile à appréhender et pour lequel il faut avoir suffisamment confiance en soi. Donc,
D'accord. Arnaud, là-dessus, comment ça se passe au niveau du projet SPIP ?
Alors, à mon avis, pas très bien. C'est un souci vraiment important. Alors, je pourrais peut-être donner quelques noms parce qu'on a eu quelques très belles contributions, certaines qui sont encore là, certaines qui sont des amis. Donc il y a Touti hein, qui est quand même un des piliers de SPIP. Il y avait Pascal Louedec qui a beaucoup fait vivre SPIP mais de manière très importante. Romy Duhaime-Verbière. Perline doit être encore dans les listes beaucoup, non? Touti, je ne sais pas, je pense. Alexandra Guiderboni et puis Diala, donc qui est avec qui j'ai 3 enfants et on vit ensemble, hein, qui a fait l'interface graphique de la version 1.9, je crois. Donc les contributions des femmes dans SPIP n'est pas nulle du tout. Par contre, c'est une communauté effectivement où on est quand même beaucoup dans l'entre-soi masculin. Alors je confonds aussi un petit peu avec Cindy où on se pose aussi ces questions-là, hein, qui sont toujours problématiques. Je sais qu'on essaye de mettre aussi essayer d'avoir des lieux de discussion qui soient pas hostiles, qui soient avec des chartes. Donc sur Cindy's, on avait mis en place une charte. Il me semble qu'on a une charte sur SPIP, non, Touti?
Ben, oui, on a une charte.
Oui, bien sûr. Donc, il y a une charte qui a été mise à jour, hein, qui a été mise à jour et actualisée avec, il y a peut-être 4-5 ans déjà. Et vas-y, je te laisse continuer.
Non, ben oui, c'est ça. Donc on a une charte et tenter d'avoir des lieux de création qui seraient au minimum pas hostiles ou pas dangereux. J'ai l'impression que c'est pas trop le premier souci. Le souci est quand même que ça ne marche pas si bien que ça, puisque à part Touti, en ce moment, il n'y a pas énormément de monde pour être proche des femmes. Donc moi, c'est plutôt l'effet pratique. Sur les idées, c'est un milieu très politisé, donc les discussions sont généralement positives. Je sais qu'on a quand même encore eu des réactionnaires sur le langage inclusif, mais grosso modo, l'équipe, elle est très pour. Ça a mis du temps à venir, mais ça vient. Le problème, c'est comment on inclut les femmes, comment on inclut le temps de travail. Et puis, je suppose, les réflexes. Alors, le fait que ce soit politisé n'est pas forcément un cadeau, hein. Dans les milieux purement libertaires, il y a aussi des problèmes d'inclusion des femmes, des hommes qui parlent. Alors, je pense que l'aspect technique rend les choses plus compliquées. Si je reprends avant, quand on était avant SPIP et avant la technique, donc quand on militait au mini-réseau, il y avait quand même beaucoup plus, à mon avis, de femmes et une meilleure visibilité. Quand on faisait la liberté d'expression, la surveillance, Touti, je ne sais pas quelle était ton expérience, mais il semblait que c'était plus, c'était un peu mieux représenté.
Disons que moi, pour avoir milité dans des milieux de gauche, je ne peux pas dire qu'ils soient vraiment très intéressés par le féminisme. Mmh. Ça c'est vraiment un problème de société, mais peut-être je pense que sur la durée, c'est vraiment un truc, enfin je veux dire, réussir à durer, réussir à s'impliquer dans un projet, évidemment, tu t'impliques aussi dans un projet parce que tu peux en vivre professionnellement. Alors au départ, moi c'est pas professionnel, c'est parce que j'ai des idées que j'ai envie de développer, que je trouve personne pour les développer, donc je suis autodidacte, j'apprends le PHP, et en même temps SPIP m'aide à apprendre. Maintenant, il y a des API et il y a plein de trucs dans SPIP. C'est vraiment un outil assez génial. Enfin, mais peut-être aussi, les femmes s'usent plus rapidement dans des communautés qui refonctionnent avec un certain libéralisme et assez concurrentiel, puisque on se retrouve aussi à devoir en vivre. Donc, on est perméable à une société à la fois patriarcale et libérale. Et du coup, je crois qu'il faut vraiment faire à chaque fois attention à accorder peut-être plus de temps, à accorder plus d'écoute, à redire. Moi, par exemple, sur Mozilla ou sur d'autres groupes, ou sur PHP, il y a des groupes de femmes. Sur Speed, comment faire un groupe de femmes quand moi, je me retrouve seule? Et comment, moi, me retrouver à porter cette question féministe alors que j'ai aussi vachement de choses à faire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la question des femmes qui m'intéresse. C'est pas parce que je suis une femme que je dois m'en occuper. Je pense que les hommes doivent aussi s'en occuper.
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est leur intérêt, quoi? Voilà, c'est si...
Alors, ouais. Vas-y, fini.
Oui, enfin, des fois, c'est sur moi que se portent les reproches, alors que moi, j'en fais pas une question personnelle, mais une question politique. Bon, voilà. Et pour moi, la politique, c'est pas seulement. Enfin, pour moi, c'est le vivre ensemble. Voilà.
Alors, je précise que on va sans doute consacrer, enfin, on va consacrer bientôt une émission à ce sujet-là, justement. On en a parlé un petit peu avec Touti en préparation, parce que ça mérite au moins une émission, voire deux, même si on a déjà parlé de ce genre de sujet dans l'émission. Mais on va essayer de revenir sur le sujet encore plus en détail. Là, on va faire une pause musicale parce que le temps passe très vite, ce qui va vous permettre de boire un peu d'eau, et moi aussi, parce que j'ai la gorge qui me gratte. Donc, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter In of Good Fortune par Solas. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter In of Good Fortune par Solas, disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Sur le site auboutdufil.com, l'excellent site auboutdufil.com, vous trouvez une présentation de l'artiste Solas qui s'est spécialisé dans la fantasy music et qui propose ainsi des musiques vikings, médiévales, celtiques ou inspirées de la musique traditionnelle irlandaise. Donc je vous renvoie sur auboutdufil.com ou libreavoue.org pour retrouver la présentation complète de l'artiste.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Alors nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte toujours sur SPIP, le logiciel libre destiné à la création de sites web, avec nos invités Arnaud Martin, Anne-Lise Martineau dite Touti, Jean Galland dit Chancalan. Donc juste avant la pause, on parlait d'un sujet très important et je vous disais qu'on allait y consacrer une émission, voire plusieurs, même très très bientôt. Là, on va changer un petit peu de sujet parce que je vois l'heure qui avance. On va parler un peu de technique, mais pas trop de technique quand même. Mais,
est-ce que je peux dire une petite chose encore ?
Vas-y, Jean. Oui, vas-y.
Juste, je lisais sur le chat, l'écriture inclusive, elle mérite d'être un bon filtre à réac. Et pour modérer un petit peu, relativiser, il me semble que dans Speed, ça fonctionne pas mal quand même, et qu'il y a malgré tout des précautions qui sont prises pour inclure tous ceux qui veulent participer, en fait, et de fait exclure ceux qui sont un peu réac, voilà quoi.
D'accord, ok, bah ceci est dit, on va pas relancer le sujet là parce que sinon on oui. pourra pas aborder les autres thèmes, mais on en reparlera sans doute, de toute façon Touti sera notre invité si elle accepte pour cette émission là, avec sans doute une ou deux autres personnes impliquées dans des communautés libristes, ce qu'il est évidemment difficile de trouver aujourd'hui, malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, le pourcentage est très très faible. Et là ce que je voudrais qu'on parle, mais un petit assez rapidement avant qu'on parle du fonctionnement du projet, de la structure humaine, c'est un petit peu ce qu'est le logiciel SPIP, ce qui permet, et justement Jean, comme tu as la parole, ça tombe bien, parce que si je me souviens bien, tu es autodidacte sur l'apprentissage de SPIP.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la technique de SPIP ? C'est quoi les principes de base de l'utilisation de SPIP ?
Alors, ça utilise les technologies comme tous les autres. Au final, c'est du HTML, du CSS, du JavaScript. Tout ça, c'est avec du PHP. SPIP, c'est un langage un peu intermédiaire entre ça, qui vient s'inclure pour travailler dans un environnement assez facile, donc le langage de boucle de SPIP, qui va permettre vraiment très finement de programmer tout ce qu'on veut, pour peu qu'on regarde un peu la doc, y a des filtres, il y a des critères, il y a beaucoup de choses pour travailler donc dans un environnement assez optimisé, avec la gestion du cache et des autorisations, et puis sécurisé. En gros, on ne peut pas faire trop de boulettes. Il y a des choses qui marchent pas, je suis d'accord, mais on a un langage qui s'appréhende assez facilement, qui interroge une base de données, évidemment. Et donc on en tire les informations pour les afficher sur un site public.
Et c'est quoi la notion ? Il y a une notion importante, je crois, dans SPIP, qui est la notion de squelette. C'est quoi un squelette ?
Donc un squelette, et d'ailleurs, je voulais dire tout à l'heure à propos des contributions, il y en a qui contribuent vraiment de diverses manières. Il y a plein de manières de contribuer à tout logiciel libre, d'ailleurs. Que ce soit dans les traductions, dans le code dur, ou dans l'organisation, ou dans la charte même. Il y a plein de niveaux et c'est tout ça qui fait le logiciel en lui-même.
C'était quoi un squelette, ma question, en fait ?
Ah oui, un squelette. oui, ben voilà, si j'ai contribué à SPIP, c'est juste parce que par quelques petits squelettes. Donc c'est des modèles de sites. On va afficher sur un site public, donc, parce qu'il y a une interface privée qui est un peu tout le temps la même, de toute façon, pour gérer les informations, paramétrer, configurer le site, et puis une interface publique. Qui va présenter, finaliser en fait l'affichage des informations, le graphisme, voilà, un peu JavaScript et puis donc la ventilation des informations dans toutes les pages du site.
D'accord. Et est-ce qu'une personne sans compétences techniques informatiques se dit tiens, il nous écoute, la personne nous écoute là, elle se dit j'ai un besoin pour créer un site web. Par exemple, tout à l'heure, Arnaud parlait des écoles. Par exemple, pour l'école où sont mes enfants, quelles compétences informatiques il faut ? Est-ce qu'il en faut ? Quel niveau ? Quelle est la difficulté de prise en main de l'outil ? Si tu peux répondre à la question, parce que c'est pas évident. Viens.
Alors en fait, non, il y a peut-être plusieurs endroits où on peut... Si on a son serveur à soi... Donc déjà avoir un serveur, c'est peut-être une connaissance technique qu'il faut, et au moins savoir faire du FTP.
C'est du transfert de fichiers.
Transfert de fichiers, une base de données. Enfin, si on veut l'installer, il faut quand même savoir savoir tout ça. Et puis il faut quand même savoir ça.
Mais en fait, ça reste quand même... Si j'ai une question, et après je poserai la même question à Touti et Arnaud, est-ce qu'il existe des hébergements spécifiques ? Parce que là, tu dis qu'effectivement, on a son propre serveur où on héberge un serveur. Est-ce qu'il existe des hébergements spécialisés SPIP ? C'est-à-dire l'idée de des entreprises qui proposeraient pour le grand public ou pour les collectivités, les associations, du SPIP qui est déjà préinstallé, qu'il ne reste plus qu'à créer son site. Est-ce que ça existe, ça ?
Non, par rapport à, tu vois, excuse-moi, je prends la parole. Non, mais par rapport à, tu vois, par exemple, quand tu prends un compte sur Gandhi ou quoi, où tu peux avoir ton nom de domaine, etc., ils te proposent pas SPIP par défaut, ils vont te proposer WordPress ou Drupal.
D'accord.
T'as pas de SPIP par défaut, après, t'as des hébergements spécifiques à SPIP. Il y a Cédric Morin qui a beaucoup travaillé dans la communauté SPIP. Et qui lui a monté Nursit, qui fait de l'hébergement SPIP.
Donc ça existe, ok.
Il héberge beaucoup de sites sous SPIP. Moi, je fais de l'hébergement aussi sous SPIP, pour SPIP, pour mes clients, mais réellement, par exemple, quand tu vas sur OVH ou sur Grandi ou sur des gros hébergeurs, il n'y a pas la possibilité d'installer SPIP par défaut. Pas en un clic. Après, SPIP, c'est génial parce que tu as un système qui s'appelle le SPIP Loader, qui est un fichier que tu installes en FTP sur ton serveur, et puis tu le lances en ligne à partir d'un navigateur et ça t'installe SPIP.
Malgré tout, je crois quand même qu'il y a une installation de SPIP sur les installeurs automatiques des hébergeurs. Par contre, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle.
On cherchera. En tout cas, ce que les gens peuvent retenir, c'est que les personnes peuvent avoir, avec ce mécanisme d'installation en un seul fichier, d'installation facile, et qu'il existe des structures qui proposent de l'hébergement spécialisé SPIP.
Oui.
Et que finalement, effectivement, il faut sans doute de quelques connaissances au départ, mais qu'en fait, ça se fait assez rapidement. Et c'est vrai que la puissance... j'ai regardé un peu les squelettes récemment, justement. La puissance des squelettes permet de faire des choses vraiment très pointues. Les personnes qui veulent s'intéresser à la technique, par exemple, du flux RSS de LibreAvoo, libreavoo.org/RSS, vous verrez qu'il est entièrement généré par un squelette avec des tests en fonction de certain nombre de conditions. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Arnaud, de ton côté, toi, tu as une longue expérience de SPIP, vu que ça fait 20 ans que tu en fais. Et j'ai l'impression qu'en fait, SPIP a toujours été un outil qui avait comme objectif, je ne sais pas, mais en tout cas comme qualité d'être accessible. En tout cas, par rapport à d'autres types de logiciels de création de contenu, de sites web ou autres, j'ai l'impression qu'il y avait cette fonctionnalité, cette ambition d'être accessible. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est la réalité ?
Oui et non, c'est très, très paradoxal. Alors déjà, dans l'utilisation de SPIP, il y a deux utilisations typiques, qui sont la première, qui est d'installer, de configurer, de fabriquer le site. et l'autre qui est de gérer le site. Donc le principe de gérer le site, c'est de faire le travail éditorial qui consiste à écrire des articles, les discuter, les négocier. Ensuite, si on a des forums, gérer les forums, faire tout le travail éditorial. Donc qui se fait avec tous les CMS et qui est propre. Qui avec SPIP était quelque chose d'assez précurseur à l'époque, mais qui est vraiment le principe. Ça, c'est très facile. Donc ça, ça a été une des grandes forces de SPIP dès les années 2001-2002. C'est que quand je dis des classes se sont mis à utiliser SPIP, c'est parce que des gamins dans des classes se sont mis à publier des choses sur le site web de la classe. Donc c'est très facile et ça reste très facile. C'est à la fois très facile et très puissant. On a vraiment des choses très intéressantes. Y a des caractéristiques de SPIP qui font que c'est très intéressant, mais c'est facile. De l'autre côté, tu as l'installation, dont là on vient de discuter avec Touti et Jean. Elle est quand même pas monstrueuse. L'idée, c'est qu'effectivement, on n'est pas parti sur l'idée d'un truc presse-bouton, c'est-à-dire le côté je vais sur un prestataire, j'appuie et clique, j'ai un très beau site. Et on a toujours un petit peu bloqué pour que, par exemple, quand tu installes le site, il soit pas très beau tout de suite. Les squelettes de base, c'est-à-dire les templates ou le look de ton site quand tu installes SPIP, bon, ben c'est pas très très joli.
C'est moche.
C'est lisible, c'est accessible. Ouais, c'est assez moche. C'est accessible, c'est lisible. Par contre, pourquoi c'est là ? C'est fait parce que ce sont des squelettes qui vont être conçus pour te montrer que des squelettes, que le code est très simple. Il est à la fois très simple et très complet et te permet de faire des choses très propres. Donc, ce code-là, il est fourni pour que toi, tu apprennes à faire des progrès. Donc après, tu vas pouvoir télécharger des choses plus maquettées, déjà faites, mais ça n'a jamais été le but premier de SPIP. C'est-à-dire par rapport à un WordPress où tu vas payer 1 euro ou même gratuitement et tu vas avoir des trucs qui sont très très jolis tout de suite, c'est pas le but de SPIP. Le but, c'est que tu apprennes à le faire pour être libre de toi-même. C'est pas juste que tu utilises un truc, ça te fait des jolis trucs, c'est que tu vas apprendre à les faire. Et en apprenant à les faire, on espère que tu seras un peu plus libre et que tu vas avoir une courbe de progression beaucoup plus progressive et qui va t'emmener sans limite. Donc on a plein de gens qui ont appris comme ça et qui sont devenus des professionnels de l'internet sans être des pouces-boutons qui ont besoin d'une interface graphique pour tout faire.
Mais c'est une approche émancipatrice, ça, quelque part, en fait.
C'est exactement ça.
Ouais, d'accord, ok.
Donc ça demande un peu de boulot.
Oui.
Le but, c'est que le boulot est un boulot, bon, pour nous politiques, mais c'est bien le but, c'est de t'amener à essayer de regarder un peu comment c'est fait sous le tapis. C'est une expérience qu'on a tous eue, hein. Touti, on en parlait tout à l'heure. On a appris à faire du HTML comment ? En allant voir les sites web qui nous plaisaient et en regardant quel était le code HTML qui leur permettait de faire ça.
Ouais.
SPIP, les squelettes, c'était le but. Donc, par défaut, par exemple, les squelettes d'un site sous SPIP sont accessibles. Si tu ne fais pas une manip particulière, tout le monde peut aller voir comment est codé ton site.
D'accord.
Alors, normalement, on le planque, ce genre de choses.
Ouais.
Mais là, le code de ton propre site, tu peux le trouver assez facilement et voir comment quelqu'un a structuré son site pour le faire.
Et l'important, petite précision, l'importance de commenter son code dans ce cas-là, parce que si vous allez voir le squelette du flux RSS de Libre à vous, il est commenté, parce que sinon c'est incompréhensible, et vous le commentez pas uniquement pour les autres personnes, mais pour vous-même dans 6 mois, pour vous souvenir de ce que vous avez fait. C'est une petite précision. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette partie-là avant qu'on parle du fonctionnement du projet, qui est vraiment essentiel aussi, parce que le temps passe vraiment très vite, ou est-ce que sur la partie vraiment, voilà, fonctionnalité de base, ça vous va?
Tu veux parler que de fonctionnalités de base, je pense que
ouais.
Oui, c'est accessible aux débutants. Mais enfin, moi, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est même si tu t'installes ta base de données, bon, ben voilà, il faut aussi créer une base de données. Mais bon, maintenant, tous les hébergeurs te proposent une base de données. Il suffit d'installer le SPIP et de pointer dessus quand tu ouvres ton fichier, le fameux SPIP loader, qui te propose quelle base de données tu veux utiliser. Donc franchement, un site SPIP aujourd'hui, quand tu as un accès FTP, ça prend 5 minutes à installer.
Oui.
Donc c'est voilà. Enfin, si tu sais installer une base de données et puis utiliser du FTP, ce qui n'est pas effectivement donné à tout le monde, mais il y a quand même pas mal d'explications partout pour y accéder. Après, quand tu regardes la base de données, c'est clair. C'est un peu. C'est un niveau un peu plus haut, niveau technique, on va dire, mais tu peux très bien voir les tables de liens, les tables principales pour les objets, tu peux créer des objets, tu peux interroger des bases à distance, tu peux créer du multidomaine, tu peux aussi utiliser SPIP Key, qui est une installation de SPIP via un terminal. Enfin, tous les degrés techniques aujourd'hui, c'est maintenant possible. On est sur notre propre serveur Git. On est sorti de SVN et on peut reprocher à SPIP d'être un peu trop français ou un peu trop anglais et puis de pas toujours avoir un super code. Mais maintenant, je pense que toutes les API qu'il y a, moi, ça me permet de faire des sites très très poussés au niveau technique pour par exemple des tours opérateurs avec des commandes de séjour ou des choses comme ça. Ou de là, je travaille pour la région Occitanie, je récupère des flux JSON que je réaffiche. Enfin bon, voilà, c'est
ok, on a compris qu'on peut faire
génial. C'est une chose que j'ai jamais pu faire avec des outils comme WordPress. Rien qu'en regardant la base de données, tu comprends pas comment ça fonctionne, quoi.
D'accord, donc c'est très clair, c'est très accessible. J'ai juste précisé que donc API, c'est des interfaces de programmation, que tu as cité Git, c'est le logiciel qui permet de maintenir le code de SPIP et les outils d'évolution, et JSON, c'est un format de fichier, on va dire texte, mais peu importe la partie technique de cet aspect là alors il nous reste une dizaine de minutes et on va revenir sur, parce que c'est aussi un point important et on n'en a pas encore vraiment parlé d'ailleurs sur l'existence actuelle, c'est le fonctionnement du projet, on va dire la structure humaine de SPIP, qui joue un rôle sans doute fondamental. Arnaud l'a un petit peu expliqué au départ. Alors déjà, une première question, combien de personnes développent la partie, on va dire, le cœur de SPIP? Il y a combien de personnes dans l'équipe qui développent? Parce que souvent, quand on parle de logiciel libre, les gens s'imaginent qu'il y a 150 personnes, des milliers de personnes, et des fois, on est surpris par les chiffres. Arnaud, il y a combien de personnes qui développent SPIP actuellement?
Je n'en sais rien du tout, faut demander à Jean.
Ah, excuse-moi, alors Jean, alors.
En fait, je ne sais pas.
Approximativement,
très c'est... précisément, je ne sais pas, une vingtaine.
D'accord, ok, une vingtaine. Et comment fonctionne ce. Est-ce que c'est une association, SPIP? Est-ce que c'est une entreprise? C'est pas une entreprise, hein, là, on l'a compris au début. Comment ça fonctionne, en fait, le projet? Qui veut expliquer?
Alors, moi, je veux bien.
Arnaud, vas-y.
C'est un point qui me tient vraiment à cœur. Parce que dans l'histoire de SPIP, la question c'est pas directement posée, mais si elle s'est posée, elle s'est présentée plutôt, puisque pour nous, ça a toujours été clair. SPIP n'est pas une entreprise, ça, c'est le principe, et n'est pas non plus une association. Ce qui fait qu'on. C'est un des aspects très intéressants, c'est que l'outil s'est développé au début à 3 personnes. 3, 4, 5, arrivé à un certain moment, l'équipe s'est stabilisée sur différentes branches. Ce qui fait qu'on a un outil qui a, comme tu as parlé, le cœur de SPIP, donc là où il y a entre 10 et 20 personnes qui sont quasiment en permanence dessus et qui font beaucoup de choses sur leur temps libre, hein, puisque évidemment personne n'est payé. Ça n'est pas non plus une association. Il y a la possibilité aussi de développer des plugins, c'est-à-dire moi c'est ce sur quoi je me concentre pour être un peu tranquille, parce que comme tout il a dit, c'est usant au bout d'un moment, donc pour être un peu tranquille et avoir mon propre rythme, je préfère me consacrer plus à des développements annexes ou sur le côté, comme ça je suis un peu tranquille dans mon coin. Ce qui fait ça fait des gros développements, hein. Il y a des gens qui ont fait des plugins dans SPIP qui sont des monstres.
Explique juste en une phrase ce qu'est un plugin.
C'est un petit bout de code qui n'est pas fourni dans SPIP directement, mais qui est très simple à ajouter à SPIP et qui va t'ajouter d'autres fonctionnalités. Qui
Nickel.
Va soit changer le fonctionnement. Moi, par exemple, j'ai fait un plugin pour gérer les images responsives, mais vous allez avoir des plugins pour gérer des formulaires. Vous allez fabriquer des formulaires dans tous les sens. Vous avez des plugins qui vont vous mettre Tutti a initié pas mal de ça, la possibilité de faire des achats en ligne, des paniers marchands, des possibilités de créer des objets dans la base de données, c'est-à-dire que SPIP fonctionne avec des rubriques et des articles, mais si tout simplement vous voulez des fiches de livres, bah vous pouvez soit trouver un plugin qui va vous gérer des fiches de livres, je suis pas sûr que ça existe, soit directement fabriquer l'objet fiche de livre fabriqué dans votre site web grâce à un plugin très générique qui vous permet de dire qu'une fiche de livre, c'est le titre du livre, ce sont des auteurs, c'est un numéro ISBN, c'est une largeur, une épaisseur, un poids, un prix de vente public, etc., un code barre. Vous allez définir tout ce qui définit la fiche du livre dans votre site.
D'accord, ok. On a bien compris le principe.
Voilà.
D'accord.
Donc ça donne une souplesse énorme à l'outil depuis la version 1.9, je crois, puis la version 2 l'a complètement stabilisé. Donc depuis 10, 12 ans, 15 ans peut-être maintenant, SPIP fonctionne avec système de plugin. Donc vous pouvez participer au plugin. Vous pouvez, d'une manière tout à fait intéressante, participer aux traductions de SPIP. Là, je ne sais pas combien il y a de gens qui participent, sachant qu'on a au moins 54 langues dans l'interface de SPIP, ce qui est quand même très très unique, hein. C'est vraiment quelque chose. Il faut essayer d'imaginer ce que c'est que traduire dans 54 langues pour une entreprise comme, je sais pas, Microsoft, qui dispose de milliards en banque. SPIP traduit très rapidement toute son interface à chaque fois qu'il y a des modifications dans 54 langues. Ce qui signifie une communauté de gens qui donnent du temps et de la compétence qui est absolument sidérante, puisque tout ça est gratuit. Vous avez la documentation qui est très importante. Donc là, parmi les gens que vous voulez citer, il y a des gens qui étaient plus spécialisés dans la documentation de SPIP, hein, et l'animation de la communauté.
D'accord.
Donc tout ça s'est mis en place progressivement et je trouve est assez stable. Fonctionne assez bien, d'une manière très décentralisée, très donc le corps est un petit peu plus centralisé puisqu'on a les gens qui sont là depuis longtemps et qui ont un peu une charge de à un moment de trancher, mais si vous voulez participer dans SPIP, c'est quand même un outil qui est très horizontal, très décentralisé, avec un fonctionnement imparfait, notamment sur le rôle des femmes, hein, on l'a déjà dit, mais par rapport à une entreprise, par rapport aux problèmes d'argent, c'est des choses qui sont tout à fait uniques.
Okay.
Donc c'est quelque chose, pour venir à ça, pour aller rapidement, WordPress c'est des centaines de millions de dollars de levée de fonds, Drupal c'est des centaines de millions de dollars de levée de fonds, Mozilla c'était des centaines de millions de dollars de, pas de levée de fonds mais fournis par Google par exemple quand, pour implémenter le moteur de recherche, c'est des sommes absolument phénoménales, donc c'est des structures extrêmement structurées qui sont des grosses entreprises avec un mode hiérarchique tout à fait établi, hein. C'est un modèle tout à fait connu.
De business.
SPIP est absolument pas ça. Donc okay. C'est très très unique.
D'accord. Est-ce que sur cette partie fonctionnement du projet structure humaine, avant la question finale, Jean ou Touté, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose?
Oui, Jean. Alors s'il n'y a pas de place de marché, en fait, ça permet de pas être en concurrence et de tous œuvrer et participer à quelque chose qui convient à tout le monde, mais qui est personnalisable par chacun. C'est quelque chose de très précieux, ça, et tout le monde y fait très attention, je crois, dans SPIP.
D'accord. Touti, tu veux ajouter quelque chose?
Moi, je voudrais dire aussi qu'il y a un soutien assez sympa. Et puis, bravo à tous les gens de la communauté qui tiennent IRC. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus IRC, d'ailleurs.
Libérachat. Ouais.
Voilà.
C'est la messagerie instantanée, on va dire textuelle.
Voilà. Et où vous trouvez toujours de l'aide, notamment de Bruno Bergo. Je ne sais pas à quel moment il dort. Mais il fait toujours un coup de main. Il sait toujours où est la doc, qu'est-ce qu'il faut. Et aujourd'hui, sur tous les sites SPIP, il y a une boussole en haut qui permet d'accéder à la traduction, à l'aide, etc. Donc c'est plutôt chouette parce que c'était vraiment une grande galaxie où tout le monde participe avec ses moyens. Et puis voilà, ça peut être aussi bien participer au forum en disant « Ah tiens, il y a ça qui marche pas » ou « Tiens, ça j'ai beaucoup aimé » ou ça fait participer. Bon, c'est le principe du logiciel libre, mais... Mais c'est bon à rappeler, quoi. C'est que c'est ouvert à tout le monde.
Bah, très bien, c'est un bon rappel. Question finale, en moins de 2 minutes, chacun et chacune. Quels sont, selon vous, les éléments clés qu'il faut retenir de cette émission? On va commencer par Jean.
Ouf.
Ah, tu peux faire 30 secondes si tu veux. Hein.
La liberté, ça se prend, ça se donne pas.
Ok, d'accord. Arnaud.
Alors, au-delà de l'utilisation, ce qui me semble intéressant, c'est cet aspect organisation qui fait que vous pouvez venir à SPIP parce que c'est un outil qui va vous intégrer dans cette communauté. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste l'utiliser de manière très consumériste. Ah tiens, j'ai besoin de faire un site web, hop, je fais le truc. Vous allez apprendre à faire votre site web en même temps que vous faites votre site web et vous avez une communauté qui va vous intégrer. Et si vous commencez à développer vos compétences, cette communauté va vous intégrer pour vous aider. Vous allez participer à l'entraide, vous allez participer à du graphisme, à de la documentation, à de la traduction, éventuellement du développement de plugins. Ça peut prendre des années, hein, mais c'est le chemin qu'on a un peu tous suivi dans cet outil. Donc c'est cette aventure très humaine qui est très très sympathique. Et donc là, bien sûr, tout le monde est bienvenu parce que c'est assez unique dans son genre. Vous n'allez pas contribuer à des gros machins commerciaux. SPIP reste un gros machin très puissant qui vous permet de faire des gros sites très compliqués, mais qui va vous intégrer progressivement et va vous apprendre à le faire au fur et à mesure. Donc c'est cette communauté qui me semble toujours intéressante.
Ok. Touti ?
Oui, je pense que quand je vois toutes les possibilités, les modularités, le fait qu'on puisse se greffer des plugins sur le corps, aujourd'hui au niveau développement, je pense qu'on peut intégrer, normalement on doit passer à Composer, bon je parle au niveau technique, hein. On doit passer à Composer, on est sur Git, bienvenue à tous ceux qui veulent contribuer, des gens plus jeunes, etc. On a beaucoup dit Spip c'est mort, pour moi c'est pas du tout mort. Tous les personnes avec qui je travaille sont super contentes en général parce que justement on peut vraiment faire de la haute couture, vraiment. Voilà, on reste dans l'artisanat mais on fait de la haute couture et puis on peut faire aussi des petits sites et on peut aider les gens à avoir leur propre site et ne plus dépendre de plateformes qui les privent de leur liberté de comprendre, ne serait-ce que ça.
Écoutez, super. Merci à vous. Je rappelle le site de web de Spip, hein, c'est spip.net. Donc nos invités du jour, c'était Arnaud Martin, Annelise Marteneau dit Touti, Jean Galland dit Chancalan. Et bien je vous souhaite de passer une belle fin de journée, puis à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Alors nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons le sujet du droit à la décompilation des logiciels. Nous allons écouter en attendant Sacrifice par Ellie Lortomy. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Sacrifice par Eli Lord Tommy, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Et vous retrouverez sur le toujours excellent fil, site auboutdufil.com, une interview de l'artiste, donc, qui est un beatmaker français. Et ce qu'il dit, donc, c'est ce qui m'inspire dans la création musicale aujourd'hui, ce sont les instruments à consonance, disons plutôt le classique comme le piano et le violon, ainsi que les chœurs style orchestral. C'est pourquoi la plupart de mes instrumentales sont construites avec ces instruments, le tout mené par une batterie à rythme hip-hop rap. Je pense que le mélange des deux est loin d'être opposé, au contraire, il peut faire ressortir une grande émotion lorsqu'il est fait de façon la plus harmonieuse possible. Et l'interview se poursuit sur le site auboutdufil.com.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies. C'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, de Tiphaine Bonnet, avocate au cabinet d'Une. Bonjour Tiphaine.
Bonjour Fred.
Alors le sujet du jour, le droit à la décompilation des logiciels.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour rester dans le thème de la chronique du mois dernier de Noémie sur le salarié et les logiciels, je vais m'intéresser au droit à la décompilation du logiciel. Donc, il s'agit d'un droit dont les contours ont été récemment rappelés par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt d'octobre 2021. Donc, la CJUE, la Cour de justice, est une institution de l'Union européenne qui va appliquer et interpréter le droit au sein de l'Union européenne et qui va permettre d'avoir une interprétation uniforme. Et dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, elle opposait le CELOR, qui est un organe public de Belgique, à la société belge Top System. Et Top System fournissait des prestations de développement et de maintenance informatique pour le compte du CELOR et avait développé des logiciels. Donc elle lui mettait à disposition un logiciel cadre avec des fonctionnalités et elle avait développé des fonctionnalités spécifiquement pour les besoins du CELOR. Et donc lui, le CELOR détenait une licence d'utilisation sur ses logiciels. Et il y a eu quelques problèmes de fonctionnement qui ont été constatés par le CELOR, notamment lors de la mise en place d'un nouvel environnement. Et la société Top System n'était pas parvenue à un accord avec le CELOR et elle avait introduit en fait un recours devant les juridictions de l'État belge. Et elle demandait en fait à faire constater d'une part que le CELOR s'était livré à la décompilation du logiciel et donc en violation de ses droits exclusifs. Et elle demandait ainsi la condamnation du CELOR et de l'État belge au versement de dommages d'intérêt au titre de la décompilation du logiciel et de la copie des codes sources qui avaient été réalisés. Et donc pour rappel, au sein de l'Union européenne, la protection des logiciels elle est assurée par une directive qui date de 1991, qui avait été mise à jour en 2009, et donc qui avait consacré le principe de la protection du logiciel par le droit d'auteur. Et dans cette directive, on retient principalement quatre articles. Donc l'article 4 qui va définir tous les droits exclusifs qu'un auteur ou qu'un titulaire des droits va détenir sur ce logiciel, et donc tous les actes qu'il va pouvoir autoriser ou interdire. On a l'article 5 de la directive qui lui va prévoir les actes que peut faire un licencié sans avoir besoin du consentement du titulaire. Et on va avoir aussi l'article 6 qui est intitulé « Décompilation » et qui va indiquer que l'autorisation de l'auteur n'est pas nécessaire lorsque la décompilation du logiciel est réalisée pour l'interopérabilité du logiciel, et donc sous réserve du respect de certaines conditions. Et donc ce sont ces articles-là qui ont posé des points de crispation, puisqu'en fait le CELOR reconnaissait avoir procédé à la décompilation d'une partie du logiciel de Top System, mais seulement dans le but d'en désactiver une fonction qui était défaillante, puisqu'il soutenait avoir le droit de procéder à la décompilation du logiciel dans le but de corriger certaines erreurs qui rendaient impossible le fonctionnement conforme à la destination du logiciel. C'est-à-dire que le logiciel ne pouvait pas être utilisé pour l'usage pour lequel il avait été créé. Et à l'inverse, la société Top System soutenait que le CELOR s'était livré de manière illégale à la décompilation du logiciel, puisqu'au regard de la directive et de la loi belge, la décompilation ne serait permise qu'à des fins d'interopérabilité et ne serait pas permise pour corriger les erreurs qui affectent le logiciel. Et donc deux questions ont été soulevées devant la Cour. Un licencié peut-il décompiler le logiciel à des fins de correction d'erreur? Et si oui, est-ce qu'il faut satisfaire les conditions de l'article 6, donc l'article 6 qui prévoit la décompilation à des fins d'interopérabilité, est-ce qu'il faut les satisfaire ces conditions? Et donc la Cour de justice, dans cet arrêt du 6 octobre 2021, en fait, elle nous livre un raisonnement qui est assez pragmatique et vraiment très pédagogue, puisqu'elle va commencer par rappeler que seul l'auteur du logiciel ou le titulaire des droits va disposer du droit d'interdire ou d'autoriser donc notamment la reproduction du logiciel, sa traduction, son arrangement, sa transformation et également sa distribution. Et ensuite, elle va rappeler que parmi ces actes, on ne retrouve pas l'acte de décompilation. Du coup, elle va se livrer, on va dire, à un travail de définition de la décompilation. Et elle va reconnaître qu'en fait, décompiler un logiciel, c'est reconstituer son code source. Donc c'est opérer une traduction du code objet en un code source. Et c'est le fait de reproduire ensuite ce code retraduit pour pouvoir corriger les erreurs. Donc elle constate que la traduction et la reproduction, ce sont des actes qui sont soumis à autorisation de l'auteur. Et donc puisque ces actes sont soumis à autorisation de l'auteur, le licencié peut réaliser l'acte de traduction et de reproduction pour pouvoir corriger des erreurs conformément à l'article 5 de la directive. Donc ça, c'est tout le raisonnement auquel se livre la Cour de justice pour finalement reconnaître que oui, il est possible de décompiler le logiciel seulement si c'est pour réaliser une correction des erreurs qui vont affecter ce fonctionnement. Et donc dans un second temps, la question était de savoir est-ce qu'il faut respecter les conditions de décompilation à des fins d'interopérabilité. Et donc là, la Cour, elle a un raisonnement très très simple. Elle considère que décompiler un logiciel à des fins d'interopérabilité, ça n'a pas du tout la même finalité que décompiler un logiciel à des fins de correction d'erreur. Et donc elle considère qu'il n'est pas nécessaire de satisfaire les conditions de l'article 6, qui sont assez strictes puisqu'il faut pouvoir démontrer que le licencié a accompli cette décompilation, donc il avait le droit de le faire. Il faut démontrer que les informations qui étaient nécessaires à l'interopérabilité n'étaient pas déjà facilement et rapidement accessibles. Et il fallait aussi démontrer que la décompilation se réalisait seulement pour l'interopérabilité. Donc là, c'est assez intéressant. On sait que ces conditions-là n'ont pas besoin d'être remplies pour pouvoir décompiler le logiciel à des fins de correction d'erreurs. Mais elle prend quand même le soin de préciser que s'il y a une décompilation, ça peut être fait seulement pour corriger les erreurs et on ne peut pas utiliser les informations qu'on peut en tirer à d'autres fins. Et donc, elle va apporter encore quelques petites précisions qui sont assez intéressantes, puisqu'elle va nous dire que si le code source est déjà contractuellement accessible, dans ce cas-là, on ne peut pas décompiler le logiciel, ça n'a aucun intérêt pour corriger les erreurs. Et d'autre part, elle va nous dire qu'il est possible en fait de prévoir cette correction des erreurs contractuellement et d'avoir des stipulations contractuelles qui sont spécifiques. Et donc, elle va nous dire qu'il n'est pas possible d'exclure le fait de pouvoir corriger les erreurs. En revanche, le titulaire des droits sur un logiciel et le licencié, ils peuvent aménager cette possibilité de corriger les erreurs, notamment en prévoyant que le titulaire va s'engager en fait à réaliser une maintenance corrective du logiciel dès lors que des erreurs lui seront remontées. Donc ce qu'il faut retenir de cet arrêt, c'est principalement le fait qu'en l'absence de stipulation contractuelle, le licencié peut accomplir sans l'accord du titulaire des droits la décompilation du logiciel pour pouvoir procéder à la correction des erreurs qui vont affecter son fonctionnement. Mais il ne peut pas utiliser les résultats de la décompilation à d'autres fins. Bon, après, évidemment, en matière de logiciel libre, cet arrêt il a une portée un petit peu plus limitée, puisque comme le code source est déjà accessible grâce à la licence libre qui lui est associée, toute personne peut pouvoir modifier et adapter le logiciel pour corriger les erreurs. Mais il nous semblait quand même important de relever cet arrêt qui permet un petit peu de clarifier les règles applicables à la décompilation.
Bah écoute, tu as bien fait, effectivement, ça les éclaircit. Et ceci dit, pour le logiciel libre, effectivement, il n'y a pas besoin de décompiler parce que normalement le code source est disponible avec les droits de modification. Par contre, le droit à la décompilation pour des questions d'interopérabilité peut être intéressant pour le logiciel libre quand on développe des logiciels libres qui vont devoir être interopérables, c'est-à-dire pouvoir fonctionner avec des logiciels tiers qui sont privateurs. Et dans ce cas-là, il peut être intéressant, mais il faut que les conditions soient réunies de pouvoir faire de la décompilation si les informations d'interopérabilité ne sont pas disponibles. Et souvent, ne le sont pas, malgré le fait que, par exemple, en France, il y a une autorité qui est en charge normalement de la régulation des mesures techniques de protection et l'interopérabilité, qui était intégrée à l'ADOPI, qui maintenant va s'appeler l'ARCOM, si je me souviens bien, avec la fusion CSA-ADOPI.
Exactement, à partir de janvier prochain.
Voilà, enfin, le droit reste toujours une matière absolument incroyable, mais si, je pense que tu penses la même chose que sur l'informatique. Enfin, voilà, c'est...
Exactement.
En tout cas, merci Tiffaine, donc c'était la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, de Tiffaine Bonnet, avocate au cabinet d'une. Je te souhaite une belle fin de journée et puis sans doute à 2022 pour la prochaine chronique.
Merci, on se voit en 2022.
Alors, on va faire quelques annonces. Alors, dans les annonces de fin, je vais vous rappeler l'existence du nouveau beau site fait avec Spip consacré à l'émission. C'est libreavous.org. Jean, que nous avions tout à l'heure, a activement contribué à sa création sous Spip avec Antoine Bardelli pour le côté graphisme et Vincent Calame pour l'intégration des anciennes émissions. Tous trois bénévoles au sein de l'April. On les remercie grandement. Dans les actus que j'ai pu voir sur le site, l'excellent site de l'agenda du libre.org, qui lui n'est pas en Spip, lui il fait en HTML pur, je crois, si je me souviens bien. J'ai noté notamment ce samedi 27 novembre 2021 à Marseille, il y a une fête d'installation de distribution logiciel libre organisée par l'association Cercle, qui veut dire Cercle d'entraide des réseaux coopératifs autour du logiciel libre. Donc c'est le samedi 27 novembre 2021 de 14h à 19h dans la salle du foyer du peuple à Marseille. Vous venez avec votre ordinateur et vous avez des personnes qui vont vous aider à installer une distribution de logiciel libre pour une utilisation quotidienne. Donc n'hésitez pas à y aller, vous trouverez des informations sur le site de l'agenda du libre.org. Alors quelque chose dont on reparlera sans doute, parce que j'ai pas été encore voir les détails exacts, mais la semaine prochaine, alors la date c'est le 30 novembre 2021, donc ça se passe de 18h à 19h30 à Paris, il y a la soirée de lancement du jeu Gao and Blaze, créé par la coopérative La Boussole, et en fait, la présentation de ce projet, Gao and Blaze est une enquête narrative, où les joueuses et les joueurs peuvent glaner des astuces pour protéger leur vie privée, et réaliser un audit de leur téléphone si ils ou elles le souhaitent. Gao and Blaze permet de prendre conscience de l'ampleur des données personnelles et sociales qui peuvent être divulguées avec l'installation d'une simple application. Et donc c'est la soirée de lancement, c'est un jeu vidéo, donc une application qui est en logiciel libre, et donc je suppose que dès le 30 novembre 2021, le jeu sera disponible en ligne et qu'on pourra le tester, et je vous dis qu'on va sans doute en reparler parce que ça a l'air d'être un projet vraiment très très intéressant, et ce que fait la coopérative La Boussole semble être également très intéressant au-delà de ce projet-là. Donc je vous rappelle, Gao and Blaze, vous allez sur l'agendadulibre.org pour retrouver les références de l'annonce. Alors notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Jean-Christophe Becquet, Tiffaine Bonnet, Arnaud Martin, Jean Galland, Annelise Marteneau. Cette 113e émission déjà a été réalisée par Étienne Gonu. Cette émission est rendue possible grâce à une équipe en or, et notamment pour la post-production des podcasts qui a eu beaucoup de travail la semaine dernière. Samuel Aubert, Elodie Daniel, Girondon, Languin, Quentin Gibault, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. On me dit que c'est même la 123e, effectivement c'est la 123e, c'est pas la 113e. Vous retrouvez sur notre site web libreavous.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio Cause Commune. .fm, n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, sur laquelle arrivent de nombreuses nouvelles émissions. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 30 novembre 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la libération de codes informatiques. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 30 novembre, et d'ici là, portez-vous bien.